Je voudrais juste revenir sur ce que disait Max tout à l'heure.
Boulevard. 102.1.
Heures 22 minutes dans le point de max à Boulevard 102.1, c'est moins 1 degré à Québec. On dit que c'est de la faible bruine verglaçante par endroit. Moins 3 au ressenti, fait qu'il y a un petit vent, là, mais c'est vraiment pas grand-chose. Le maximum pour aujourd'hui, c'est 1 degré, 40% de possibilité d'averse de neige pour le reste de la journée. Demain, c'est ce soir, c'est moins 5, le minimum. Et demain, c'est un beau petit 4 degrés avec alternance soleil-nuage. Ça va bien se prendre. Puis après ça, on est dans les positifs pas mal là, en fin de semaine. Vendredi, 5 degrés neige ou pluie. Samedi, 3 degrés avec des possibilités d'averse. Et dimanche, un gros 10 degrés avec de la pluie. On est rendu là, les amis, tranquillement, pas vite. Ça paraît pas avec la genre de tempête de neige qu'on a eu hier soir, mais je vous jure qu'on y arrive. Mais vous connaissez le dicton, hein? En avril, on se découvre pas d'un fil quand même. J'avais hâte de ravoir une discussion au sujet de ce projet-là. On en avait parlé, ça fait quelques mois de ça, alors qu'on était dans la préparation du livre « Rêvons Québec 2050 ». Et là, ben, on est arrivé à l'aboutissement du projet. Puis je dis l'aboutissement du projet, c'est vrai dans un sens où le livre a été publié, mais en même temps, si on veut que le projet ait servi à quelque chose, j'ai l'impression que ça reste encore juste un début. Pour en parler, Olga Farman, qui est directrice du livre « Rêvons Québec 2050 », instigatrice aussi du projet. Salut Olga Farman.
Bonjour Maxime, ça va bien?
Très bien, merci. Comment ça s'est passé le lancement qui était hier?
Énormément de fierté, puis je te dirais fierté envers la communauté, parce que quand on s'est parlé à l'automne passé, je lançais un livre sans aucun auteur qui avait accepté encore, sans même un éditeur, et depuis ce temps-là, Septentrion a accepté d'éditer le livre, et un après l'autre, je suis allée chercher des rêveurs, des rêveuses de tous les horizons. Quand vous allez voir les 100 noms et plus de 100 noms qui composent le recueil, ils ont tous dit oui. Je sais pas si tu peux imaginer comment c'est faire preuve de vulnérabilité puis de courage de dire « je prends le temps, je prends ma plume et je me projette dans 25 ans pour mes enfants ».
Mais rappelle-nous un peu justement là, ce qu'on retrouve comme contenu dans ce livre-là. Tu nous parles des plusieurs dizaines d'auteurs qui s'y retrouvent. Sur quoi ils ont écrit grossièrement ces auteurs-là?
Alors, le processus a été génial parce que ce que je leur donnais, c'était carte blanche. Ils devaient rêver leur ville en 2050, mais sans aucune limite, sans direction, sans censure. Il y en a qui ont fait de la poésie, il y en a qui ont écrit des recettes. Il y a Webster qui a une chanson. Et ensuite de ça, il y a des gens de partout, de tous les horizons. Et il y a comme un fil narratif un peu invisible à travers les textes, mais chacun a son angle, du sport jusqu'au bien-être, de l'agriculture populaire en parlant du fleuve, d'économie en parlant de la beauté de la ville. Alors, ils sont arrivés avec leurs rêves, puis comme tu sais, je me répète en disant sans aucune censure, sans directive autre que dites-nous ce que vous voyez dans 25 ans puis vous voulez laisser à vos enfants. Et quelqu'un qui passe avec un bon café justement sous la neige en cette période printanière, un samedi matin, là, puis qui lit ça, c'est juste une dose de bonheur, là.
Est-ce que j'ai raison quand je dis que, c'est cool, on a accouché du livre, le lancement qui était hier, mais que le livre n'aura pas dans un sens atteint son objectif à 100% si ça se termine là, si ok, c'est bien cool, on lit ça puis on peut rêver un peu, mais que ça mène pas plus loin?
Ben, ta question me touche parce que c'est vraiment ça l'objectif. Le mouvement en soi, le fait qu'il ait existé, écoute, sans argent, c'est pas un parti politique, le leg, ça demeure un livre, un concours littéraire avec les enfants, puis des séances de discussion au musée. Le fait que les citoyens et citoyennes de Québec l'adoptent, le prennent, le lisent, aient le goût de rêver leur ville, d'avoir des projets fous à leur image, tu sais, ça en soi, là, pour moi, ça va être une réussite. Alors, le plus grand défi en ce moment, moi, j'ai porté une grande part du projet en disant, je vais réunir des gens, on embarque dans ce dossier-là, dans ce projet-là. Maintenant, il faut que les gens de Québec se l'approprient. Si tu me permets, si j'ai un conseil à donner aux grands-parents, aux parents, c'est d'acheter le livre et de prendre le temps. prendre le temps d'écrire une lettre, d'écrire un mot à leurs enfants, de le glisser dans le livre et de le leur laisser pour l'avenir dans la bibliothèque, pour que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, ces enfants-là prennent le recueil, voient non seulement ce que leur communauté leur lègue, mais ce que leurs propres parents ont rêvé pour eux. Ça, pour moi, ça va être, on va avoir atteint l'objectif.
Est-ce que, puis tu sais, je veux pas qu'on embarque dans la grosse politique, mais est-ce que les politiciens se permettent encore de rêver? J'ai l'impression que ce concept-là de rêve dans le monde politique, puis je pourrais prendre comme exemple juste la dernière campagne électorale à Québec, au municipal, dans les plateformes, me semble que ça en manque de rêve pour l'avenir de Québec.
C'est-tu, la politique a un enjeu, c'est que nos politiciens sont limités par des mandats, sont limités dans le temps. Lorsqu'une population, lorsque des citoyens, eux, décident de rêver puis de se projeter dans 25 ans, ça va beaucoup plus loin qu'un mandat municipal, provincial ou fédéral. Et hier, quelqu'un me disait, tu sais, je parlais d'un legs, et faire un legs, c'est un legs politique, le mouvement Rêvons Québec. Parce que lorsque les citoyens, à la base, se réapproprient le rêve de leur communauté, de la ville qu'ils veulent laisser. Moi, je pense que c'est un message fort qu'on envoie aux trois paliers de gouvernement, au-delà des décisions qui, en passant, sont totalement nécessaires pour des projets, pour des infrastructures, pour du béton, pour une façon de vivre dans notre ville. Ben, ça prend une dose d'énergie qui nous projette dans l'avenir. Puis, honnêtement, j'espère qu'ils vont s'en inspirer, j'espère qu'ils vont l'intégrer à leur plateforme, mais j'espère surtout que les citoyens et citoyennes, eux, vont continuer à rêver puis à élever leur voix au-dessus des projets qui sont parfois polarisants.
Puis comment on fait dans la réalité économique du Québec qu'on connaît aujourd'hui, que c'est pas nécessairement évident, on en entend parler à tous les jours. Comment on fait pour pas tomber dans un genre de cynisme, là, de se dire de toute façon, on n'aura pas l'argent pour réaliser ces beaux projets-là. Comment on fait pour que ce ne soit pas un frein dans le contexte où on veut rêver puis continuer de rêver?
Ça, c'est une magnifique question aussi, parce que tu sais, un rêve, là, puis quand on va passer à travers, les gens vont découvrir le livre, des fois, c'est des idées toutes simples. Tu sais, moi, mon rêve, c'était de créer un mouvement puis de lancer un livre. Puis en soi, je l'ai atteint. Ça m'a pris 3 ans, tu vas me dire. Puis ça m'a pris bien des sollicitations pour trouver mes 100 rêveurs. Mais à travers 1001 petits projets qui, eux, permettent à des jeunes, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner espoir puis de laisser à la génération qui nous suit des outils. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux environnementaux qui ressortent du recueil. Il y a beaucoup de rêves qui sont en lien avec la proximité, avec le fait qu'on veut garder Québec à grandeur naturelle humaine, qu'on veut s'assurer de la qualité de vie, un accès à la nature et autres. Alors, des fois, le rêve, c'est de protéger ce qu'on a. C'est pas nécessairement de créer du nouveau. C'est pas nécessairement d'amener un projet structurant additionnel. C'est de s'assurer que la qualité de vie qu'on a avec les citoyens et citoyennes qui nous entourent est maintenue et préservée. Alors, je te dirais, des petits gestes, des petits rêves, des voix multiples, puis c'est d'y croire, puis de laisser une trace pour les générations qui suivent.
Y en a-tu des rêves dans ceux qui se retrouvent dans le livre qui t'ont particulièrement marqué, des trucs auxquels tu n'avais peut-être jamais pensé, puis quand tu as vu ça, ça t'est resté en tête?
Ouais, ben écoute, on a demandé à Bonhomme Carnaval, imagine-toi donc, de rêver. Il a accepté, ce que j'ai trouvé vraiment cool. Son texte m'a fait chaud au cœur, parce que de se projeter dans 25 ans et de savoir que Bonhomme va être encore là, que notre ville va garder ses institutions comme le Carnaval de Québec, c'est comme si c'est venu aussi me rassurer pour que mon fils, qui lui a 13 ans, va encore pouvoir le vivre. Il y a beaucoup de projets par ailleurs, exemple des navettes fluviales. Moi, je suis un peu surprise de voir à quel point les gens en ont parlé, les rêveurs en ont parlé, l'accès au fleuve, la baignade, le côté très agriculture urbaine est ressorti beaucoup aussi. J'ai un économiste, Jean-Pierre Lessard, qui est fantastique, qui parle de la beauté, de l'économie de la beauté. Donc, chacun, là, vous allez le voir, là, arrive avec un angle complètement différent, parfois un peu exubérant, parfois sombre, parfois très, très inspirant, mais vous allez découvrir des auteurs là-dedans qui sont des fois très, très connus de la population et d'autres parfois qui sont inconnus, mais leur rêve est tout aussi puissant que ceux qu'on est habitué de voir sur la scène municipale.
Olga, je veux finir avec ça. Tu signes le premier texte du recueil et c'est ton fils Paul, 13 ans, qui écrit la fin de ce recueil-là. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Écoute, je trouve que c'est un moment puissant dans la vie d'une maman de laisser ce genre de legs-là, de laisser un message d'espoir, de rêver mon fils à travers ce mouvement-là, de voir aussi que Paul a décidé de prendre la plume, le crayon et de me rassurer qu'il va continuer à sa façon, sa route avec les siens. Tu sais, ça ressort beaucoup dans mon texte. Le fait que ce n'est pas un livre pour les adultes de nos jours, mais bien pour les enfants, qu'importe d'où ils viennent, qu'importe leur quartier, qu'importe leur rêve, de leur laisser cet outil-là et de voir que la voix de Paul est là, elle est forte, elle est réelle. Tu sais, des fois, on se perd dans des univers imaginaires, on court après les filles, on court après des rêves un peu fous, mais là, de voir que c'est bien réel et que la prochaine génération va suivre avec ses propres rêves, ben écoute, j'ai trouvé ça magnifique.
Olga Farman, directrice du livre Rêvons Québec 2050, instigatrice aussi de ce projet-là, qui, espérons-le, trouvera une façon de vivre à travers le temps. Olga, merci beaucoup pour ton temps.
Merci Maxime, c'est gentil, au revoir.
418-971-1021, en avez-vous des rêves pour Québec? Projet que je trouve super intéressant. C'est sûr que dans les prochaines semaines, je vais prendre le temps de me procurer ce livre-là, Rêvons Québec 2050. J'allais m'engager à le lire. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre jusqu'à la fin. Là. Je vais au moins le feuilleter, mais je vais essayer de le lire au complet, promis. Au retour, on retrouve un vieil ami, Charles Fecteau, qui est maintenant, semble-t-il, co-organisateur en chef du Parti libéral du Québec pour la capitale nationale. On va parler ensemble des récents sondages qui sont pas pires pour le Parti libéral du Québec, puis d'une couple d'affaires là, qui se passe en politique québécoise, parce qu'on n'en manque pas de stock. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 102.1. Il est 10h34 minutes.
Le Point de Max.